Bonjour à toutes et à tous, Alexandre Carrette au micro, très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle édition de l'invité de la semaine d'ONU Info Genève. La Covid-19 continue à bouleverser les vies et les économies du monde entier. Force est de constater que tout le monde n'est pas égal face aux conséquences désastreuses de la pandémie. Les femmes sont ainsi touchées de manière disproportionnée par les répercussions de la Covid-19. De nombreux rapports alarmants d'experts des droits de l'homme indiquent une augmentation très importante des violences sexistes en raison du confinement partout dans le monde. Les femmes sont aussi davantage impactées par les pertes d'emploi. Ce sont pourtant elles qui sont en première ligne pour soigner les malades et un grand nombre d'entre elles ont contracté le virus en tentant de sauver des vies. Alors que la pandémie pourrait faire reculer les avancées dans le domaine de l'égalité, le monde célèbre cette année les 25 ans de la Déclaration et du Programme d'action de Beijing. Ce programme d'action adopté à l'occasion de la 4e conférence mondiale sur les femmes reste aujourd'hui le cadre de référence pour la communauté internationale en matière d'égalité entre les hommes et les femmes. À l'époque, la Déclaration et le Programme d'action de Beijing ont permis de mettre cette question de l'égalité en haut de l'agenda politique. 25 ans plus tard, que reste-t-il de Beijing ? C'est de cette question dont nous allons discuter avec notre invité de la semaine. Il s'agit de Christine Lau, directrice du bureau d'ONU Femmes de Genève, l'entité des Nations Unies consacrée à l'égalité des sexes et à l'autonomisation des femmes. Christine Lau, bonjour.
Bonjour.
Un grand merci d'avoir accepté notre invitation. Avant d'évoquer la déclaration et le programme d'action de Beijing, quelques mots sur la Covid-19. Vous confirmez que cette pandémie a eu des conséquences disproportionnées sur les femmes ?
Effectivement, comme vous le dites, la pandémie Covid-19 frappe durement les femmes. Alors que les hommes souffrent des taux de mortalité plus élevés, la pandémie n'est pas seulement un enjeu sanitaire. Les femmes sont particulièrement touchées par les retombées économiques et sociales. Comme vous l'avez dit, en tant que soignantes non rémunérées, en tant que victimes de violences familiales et aussi en tant que travailleurs dans les emplois qui manquent de protection sociale.
De nombreux experts ont expliqué que ces conséquences disproportionnées de la pandémie sur les femmes découlaient d'autres inégalités qui existaient auparavant, avant la pandémie, entre les hommes et les femmes.
Bon, quand on regarde la violence familiale et l'exploitation sexuelle, il faut dire qu'ils sont de toute façon une épidémie dans toutes les sociétés. Mais maintenant, lorsque les ménages sont placés sous des contraintes accrues qui découlent des préoccupations liées à la sécurité, à la santé et à l'argent, ainsi qu'à des conditions de vie confinées, les niveaux de ces violences augmentent considérablement. Donc la violence domestique, par exemple, a triplé dans certains pays avec le confinement. Ouais.
Est-ce que vous avez l'impression que les États ont pris conscience de cette problématique ? Est-ce qu'il y a une conscience de la communauté internationale pour lutter contre ce phénomène ?
Il y a une grande conscience de tous les pays, mais en même temps, le défi de lutter contre le Covid, de contenir les effets, sont vraiment énormes. Et là, on a aussi observé qu'il y a des moyens financiers qui sont détournés pour lutter contre le Covid. Par exemple, les services de santé surchargés au détriment des services dont les femmes ont besoin, y compris pour services pré- ou post-natal, mais aussi dans le contexte de la violence.
Alors justement, il y a quelques jours, on célébrait les 25 ans de la Déclaration et du Programme d'action de Beijing, un programme ambitieux qui visait l'égalité entre les femmes et les hommes. Je vous propose d'écouter Antonio Guterres, le secrétaire général de l'ONU, à l'occasion de l'événement autour de ce 25e anniversaire à New York.
La conférence de Pékin a été un moment charnière, un point de repère, un tournant. Pour beaucoup d'entre nous, ce fut un temps de réflexion profonde. La vision audacieuse et l'agenda de transformation de la conférence de Pékin ont tout d'abord clairement montré que les droits des femmes sont au cœur de l'égalité et de la justice partout dans le monde. Mais aussi que ces droits sont refusés, entravés et ignorés partout. C'était un signal d'alarme.
Alors Christine Lau, en quoi Beijing est un tournant, un point de repère pour citer Antonio Guterres ?
Bon, il faut savoir aujourd'hui que la déclaration et le programme d'action de Pékin de 1995 constituent toujours le programme le plus visionnaire jamais établi en faveur de l'autonomisation des femmes. Et donc, c'est vraiment important de retenir que son élaboration et l'adoption par la communauté internationale, veut dire par 189 États membres de l'ONU, c'était une étape majeure en faveur de l'égalité entre femmes et hommes.
Et en quoi le contexte à l'époque était favorable justement à adopter cette déclaration et ce programme d'action ?
La déclaration et le programme d'action sont le résultat de plus de 20 ans de travail de fond à travers de 4 conférences mondiales avec la participation de toute la communauté internationale et de dizaines de milliers de militants. Les débats et les délibérations pendant ces 20 ans ont été importants pour recueillir et agencer clairement les revendications, les problèmes et les préoccupations des femmes. Et le processus a réuni des milliers de femmes de tous les coins du monde, avec des différences culturelles et idéologiques, ayant des concepts totalement différents de la politique et représentant des différents intérêts. Et pourtant, elles reconnaissaient les mêmes problèmes de violence et de discrimination. Et cela a permis de cerner toutes les diverses formes de discrimination et de violence à l'égard des femmes et de cibler des actes clés pour agir. Et tout cela contenu dans la déclaration à la plateforme.
Alors, globalement, on peut dire que la situation s'est améliorée depuis Beijing. Peut-on dire que le signal d'alarme a été entendu, pour reprendre l'expression d'Antonio Guterres ?
On peut reconnaître qu'il y a des progrès importants qui étaient réalisés depuis 1995. On voit beaucoup de réformes juridiques. Depuis l'adoption du programme d'action, il y a 274 réformes juridiques et réglementaires contribuant à l'égalité des sexes. Il y a 150 pays qui ont adopté une législation qui s'attaque spécifiquement à la violence à l'égard des femmes. Il y a d'autres mesures, mais malgré tous ces importants progrès, de nombreux obstacles restent inchangés sur le plan juridique et culturel. Par exemple, moins de 2/3 des femmes font partie de la population active et près de 400 millions vivent dans l'extrême pauvreté. Où on voit 243 millions de femmes sont toujours victimes de violences de la part d'un partenaire intime chaque année. Où dans les décisions, on peut voir les hommes détiennent 75% des sièges parlementaires et 73% des postes de direction. Ils sont 70% des négociateurs sur le climat et presque tous les négociateurs de paix sont des hommes. Donc il reste beaucoup à faire.
Justement, l'égalité entre les sexes et l'autonomisation des femmes et des filles est un des objectifs de développement durable à l'horizon 2030. Pensez-vous que c'est encore réalisable ? Il reste une dizaine d'années.
Oui, on travaille dans le contexte maintenant, depuis cette année, dans la décennie d'action des Nations Unies que le secrétaire général a lancée. Et ONU Femmes prend la commémoration du 25e anniversaire de la déclaration et du programme d'action pour lancer une campagne pour unir, pour insister sur la réalisation des droits fondamentaux de toutes les femmes et les filles. Une campagne qui s'appelle « Génération et égalité ». Et là, il s'agit d'une véritable mobilisation mondiale qui s'achèvera avec le forum « Génération égalité ». Un forum, une conférence qui était initialement prévue pour 2020, mais est remportée à cause du Covid à l'année prochaine.
On fête un double anniversaire cette année puisque c'est les 25 ans de la déclaration et du programme d'action de Beijing, mais c'est aussi les 10 ans d'ONU Femmes. Il a fallu attendre très longtemps finalement pour avoir une entité aux Nations Unies réservée à l'égalité homme-femme et à l'autonomisation des femmes et des filles.
Oui, effectivement, on fête beaucoup d'anniversaires cette année. Il y a encore d'autres, comme par exemple le 20e anniversaire de la résolution 1325 du Conseil de sécurité sur les femmes, la paix et la sécurité. Mais par rapport à ONU Femmes, il faut dire qu'il existait déjà au sein du système onusien plusieurs entités dédiées à l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes. Mais pendant nombreuses années, l'ONU a dû faire face à des gros défis pour promouvoir l'égalité des sexes à l'échelle mondiale. Donc, il fallait un moteur pour diriger ces activités. Et puis, c'est par une résolution de l'Assemblée générale des Nations Unies que finalement, en 2010, ensemble avec des gouvernements, mais aussi avec les mouvements féministes, que c'est devenu possible d'adopter cette résolution et fonder ONU Femmes.
Chrysilo, une dernière question. Si vous aviez un slogan à faire passer auprès des États aujourd'hui pour que l'égalité des femmes devienne la priorité des gouvernements, quel serait-il ?
Je pense que c'est très simple. Dans le monde, tous les États et toutes les sociétés cherchent la prospérité et le développement pour l'économie, pour leur famille, pour la vie. Et je pense là, c'est vraiment très important de comprendre avec l'égalité femmes-hommes ce développement et sur la meilleure route quand tout le monde est inclus et tout le monde fait partie.
Christine Lowe, un grand merci d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle que vous êtes la directrice du bureau d'ONU Femmes à Genève. Et c'est la fin de cette édition. Je vous donne rendez-vous vendredi pour le journal de la semaine. L'actualité des Nations Unies à Genève continue sur le site web ungeneva.org et sur le compte Twitter en français ONU Genève. À très bientôt.